Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Jusqu'au 30 août, au parc des expositions de la Porte de Versailles, se tient l'exposition Lascaux à Paris en partenariat avec Europe 1. Franck Ferrand nous l'a fait visiter cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. C'est une occasion extraordinaire qui s'offre aux Parisiens et aux touristes de Paris de découvrir cette grotte qu'on a surnommée la chapelle Sixtine du Paléolithique. J'ai demandé à Pascal Pic, qui est paléoanthropologue au Collège de France, de venir nous aider à en décrypter les merveilles. Après quoi, je répondrai à la question d'Hubert, qui souhaite connaître l'origine de l'expression « les enfants de la balle ». Pour le moment, ce sont plutôt les enfants du silex qui nous attendent.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Si je vous dis que nous sommes en septembre 1940, vous allez tout de suite penser au commencement de la Seconde Guerre mondiale. Et oui, nous sommes dans les tout premiers jours du conflit. Vous savez que au tout début, pour la France, la Seconde Guerre mondiale s'est résumée à ce qu'on a appelé la drôle de guerre. C'est-à-dire que c'était une sorte de veillée d'armes. On était en guerre, mais rien ne se passait de bien concret. La population attendait et notamment les écoliers étaient dans un climat de fébrilité particulier. Ce jour-là, nous sommes un jeudi. C'est important de le préciser parce que le jeudi, à l'époque, c'est le jour où l'on ne va pas à l'école, bien entendu. C'est le jour de repos. C'était pas le mercredi. Dans les années 40, c'était le jeudi. Et ce jeudi, donc, de fin d'été, on est en septembre, il fait très chaud. Il faut imaginer qu'on est en Dordogne, dans le village de Montignac, dans un climat qui est pas particulièrement chaud. Des enfants se promènent sur les plateaux qui dominent la Vézère. Alors ces enfants, ils sont au nombre de quatre, ce sont quatre jeunes garçons. Ils ont l'habitude de se promener là avec leur chien, et là leur chien a disparu. Alors ils l'appellent dans un premier temps, le chien ne répond pas, et comme à cet endroit il y a énormément de braconnage, il se dit que le chien d'abord est peut-être parti tout simplement courir un lièvre, et que ça pourrait être pire, il aurait pu se prendre dans un collet. Alors ils se mettent à sa recherche, ils appellent, ils crient, etc. Et à un moment, on entend des aboiements, sauf que ce sont des aboiements qui montent du sol. Alors, les garçons écartent les buissons, ils finissent par tomber sur une faille d'où vient le cri du chien, et cette faille est suffisamment large pour qu'ils puissent y descendre. Ils tombent sur une sorte de couloir, d'abord très étroit, et puis ce couloir s'élargit. Les enfants ont sur eux des allumettes, alors ils vont craquer des petites allumettes, et ça fait des halos de lumière, et là... Là, ce qu'ils découvrent est proprement stupéfiant. On a au-dessus de la tête, on a sur les parois des cerfs, des chevaux, des taureaux, et quand je dis des taureaux, certains d'une taille gigantesque, tout ça exécuté admirablement, tout ça animé d'une sorte de vie incroyable. On a l'impression que ces animaux sont vivants, on a surtout l'impression que les peintures sont toutes fraîches. Est-ce que les enfants sont émerveillés ou est-ce qu'ils sont effrayés? Toujours est-il qu'ils remontent au jour, bien entendu, et qu'ils vont aller prévenir qui? Évidemment, leur instituteur. C'est une figure, l'instituteur, dans les villages de l'époque. C'est le détenteur du savoir. C'est l'autorité qui peut faire le lien avec des autorités supérieures, bien entendu. Donc, les enfants vont revenir avec l'instituteur, avec le chien sans doute aussi, et l'instituteur va descendre. Alors lui, il s'est muni de tout ce qu'il faut. Il a une lampe, il descend, et ce qu'il découvre le sidère, bien entendu. Il est tellement marqué, cet instituteur, qu'il va tout de suite avoir l'idée de prévenir non seulement les autorités civiles, enfin toute la voie hiérarchique, mais il s'adresse directement à celui qui, à l'époque, est considéré comme le véritable pape de la préhistoire, celui qui connaît tout sur l'époque paléolithique, c'est le célèbre abbé Breuil. Alors, les services des Beaux-Arts vont se mettre en branle, bien entendu. Tout de suite, ils organisent la fouille, si je puis dire, l'exploration, pour être plus exact, de cette grotte, de cette caverne. Ils préparent, ils font tous les aménagements nécessaires pour assurer la protection des peintures contre l'action des courants d'air, contre les changements de température, etc. Et ils vont entrevoir la possibilité de faire visiter la grotte. Je dis seulement l'entrevoir parce que, encore une fois, on est en 1940. Et en 1940, en pleine guerre, on a autre chose à faire que d'organiser un nouveau site culturel. Il va falloir attendre la fin de la guerre, le tournant de l'année 1945, pour que ces aménagements soient réellement mis en place. Et l'ouverture au public se fera le 14 juillet 1948. Et quand je dis ouverture au public, c'est un succès phénoménal. Jusqu'à 50 000 visiteurs par an qui viennent, qui se précipitent des quatre coins de la France, de l'Europe, du monde entier pour voir ces peintures dont on a depuis appris qu'elles étaient extrêmement anciennes. Alors, ces peintures, ce qui les a magnifiquement préservées, c'est la couche, c'est le voile de calcite qui s'est formé par le ruissellement des eaux au cours des millénaires. Ça crée comme une sorte de petite vitre, si vous voulez, sur les peintures qui les protège, bien entendu, et qui leur donne en même temps leur éclat et leur authenticité, parce qu'il est évident que ce voile de calcite, il n'a pas pu être créé artificiellement. À partir du moment où les peintures sont sous le calcite, ça signifie donc qu'elles sont là depuis des milliers et des milliers d'années. Néanmoins, les visiteurs, parce qu'ils viennent là par dizaines de milliers, vont mettre peu à peu en péril les décors extraordinaires de cette grotte de Lascaux, c'est le nom du lieu. On va voir bientôt proliférer les bactéries, s'installer des algues vertes qui ont été apportées par tous ces visiteurs qui sont là, qui parlent, qui soufflent, si je puis dire, dans la grotte. Et ça devient tellement inquiétant qu'en 1963, le ministre en charge des affaires culturelles, c'est André Malraux à l'époque bien entendu, Malraux va avoir la sagesse de décider la fermeture de la grotte au public. Alors, on ferme la grotte, mais tout de suite, on prévoit la possibilité de réaliser une copie, un modèle de cette grotte qui sera, il faut des années pour le réaliser, on le lance en 1975, il faut 8 ans pour le réaliser, il sera inauguré le 18 juillet 1983. Ça, c'est ce qu'on appelle Lascaux 2. Et puis, on va faire peu à peu le constat de l'extraordinaire engouement du public pour ces copies de peintures rupestres et l'on réalise un fac-similé qui peut être déplacé, un fac-similé itinérant qui devient une sorte d'exposition qui va d'abord être présentée en 2010 au Conseil général de la Dordogne, qui va faire le tour du monde littéralement et qui est donc actuellement présenté à Paris. C'est ce Lascaux 3 que vous pouvez voir à Paris. On est en train même de préparer en ce moment un Lascaux 4 qui ouvrira ses portes au printemps 2016 au pied de la colline de Lascaux. Et cette fois, c'est l'ensemble de la grotte qui sera intégralement reconstituée.
Sur Europe 1, un extrait de l'œuvre phare de Karl Orff, Carmina Burana, par James Levin. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur la grotte de Lascaux.
J'ai commencé ce récit par la légende de ces quatre enfants qui sont en train de se promener en surplomb de la Vézère avec leur chien. Leur chien disparaît, aboie, et c'est en essayant de trouver l'origine des aboiements qu'ils auraient découvert la faille. En vérité, l'un d'entre eux, Jacques Marsal, a signalé l'erreur et a expliqué que ce n'était pas du tout comme ça que ça s'était passé. « Lorsque je ne serai plus là et que vous parlerez de Lascaux », a-t-il dit à la journaliste André Thénault, « je voudrais que vous précisiez que contrairement à ce qui a été dit ou écrit, ce n'est pas par hasard que nous avons découvert la grotte. Ce n'est pas non plus en jouant au ballon que celui-ci aurait roulé dans un trou. Nous connaissions l'existence d'une cavité, habitués que nous étions à la présence de grottes dans la région. Nous avions donc décidé d'aller l'explorer en cachette de nos parents, bien sûr. C'était en outre un jeudi de septembre, donc double raison pour ne pas nous accuser d'avoir fait l'école buissonnière ainsi que cela a été fait. Dont acte, monsieur Marsal. On a bien compris qu'en ce mois de septembre 1940, les enfants ont fait une découverte volontaire. Ils ont exploré un site qu'ils connaissaient déjà et qu'ils n'ont fait qu'agrandir d'une certaine manière, ce qui rend leur découverte sans doute encore plus méritoire. Cette révélation de la grotte de Lascaux va faire date. Parce que jusqu'alors, l'art préhistorique était, était l'apanage d'un certain nombre de spécialistes. Je vous ai parlé de l'abbé Breuil, bien entendu. Il y en a un certain nombre d'autres qui travaillaient sur ces peintures rupestres, qui s'intéressaient à l'art préhistorique, mais qui n'avaient pas fait sortir ces merveilles du cabinet des amateurs, si je puis dire. Avec Lascaux, ça devient l'affaire du grand public et ça devient un objet de curiosité générale. On peut dire que la découverte de la grotte de Lascaux a été pour la préhistoire un moyen de promotion absolument extraordinaire. Alors il faut imaginer cet abbé Breuil qui arrive avec toute son équipe, hein, il n'est pas tout seul bien entendu. Il va explorer la grotte avec le docteur Chénier, avec l'abbé Buissonni, avec monsieur Perroni bien entendu, qui va être l'un des grands spécialistes de la question. Et ensemble, ils vont de surprise en stupéfaction. Il faut voir l'incroyable splendeur de tout ce qu'on a sous les yeux. Les parois de cette grotte de Lascaux sont couvertes de bisons, de rhinocéros, Tichorhinus, de cerfs élaphes. Il y a une reproduction tout à fait réaliste, extrêmement vivante, comme saisie sur le vif de ces grands animaux. On reconnaît aussi des mains différentes, probablement plusieurs époques, puisque l'abbé Breuil ira jusqu'à différencier 8 générations d'artistes et il a repéré que chacun avait non seulement sa technique et sa palette, sa manière en quelque sorte de représenter les animaux, mais qu'il y avait probablement même une vocation, une finalité différente à chacun de ces artistes. Alors, il y avait dans ce site de Lascaux des sanctuaires permanents et d'autres sanctuaires saisonniers, si vous voulez. Qui avait accès à ces grottes ? Probablement des initiés. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, certaines des peintures sont parfaitement inaccessibles, mais parce qu'il y a eu des effondrements, des éboulements de terrain. À l'époque, il est très probable que toutes les peintures aient été accessibles à main d'homme. Certaines sont d'un réalisme saisissant. Vous avez une grande composition scénique composée avec un sens de la mise en scène tout à fait incroyable, ce qu'on appelle la scène de l'homme mort, qui est un des morceaux les plus étranges, les plus impressionnants de l'art de Lascaux, et qui offre à notre imagination des horizons insondables. Tout est possible. Nous pouvons nous-mêmes aujourd'hui, au XXe et au XXIe siècle, projeter d'une certaine manière tous nos idéaux et tous nos fantasmes sur ces peintures d'un autre âge. La figure humaine dont je vous parle apparaît associée aux formes animales. Le lieu où la scène est placée, qui est une sorte de puits, fait songer à un tombeau ou à un saint des saints, comme si c'était en quelque sorte l'endroit le plus sacré de la grotte. Je vous en dirai un mot tout à l'heure de ce puits. À côté de l'homme mort se dresse un poteau qui est surmonté d'un oiseau, poteau qui, et ça c'est l'abbé Breuil qui l'avait fait remarquer d'emblée, poteau qui ressemble à ceux qu'on voit en Alaska, qui sont des espèces de poteaux funéraires. À gauche de l'homme, une figure de rhinocéros s'éloigne, elle tourne le dos au combat qui visiblement a été fatal aux deux adversaires. L'art préhistorique, disons-le, offre peu de représentations aussi terribles, aussi bizarres, aussi mystérieuses que celle-ci. L'abbé Breuil, en décrivant cette scène, suggérait, et ce serait intéressant de savoir si cette suggestion correspond à une réalité, il suggérait que nous étions en présence d'une peinture commémorant la mort du chasseur dont la tombe se trouverait placée au pied de la paroi. Sauf que la tombe en question, on ne l'a jamais trouvée. Alors encore une fois, il y a eu des glissements de terrain, il y a eu des déplacements, on ne sait pas qui est entré dans ces grottes et pour y faire quoi. Mais toujours est-il qu'on n'a pas les traces de sépulture. Les animaux figurés dans ces grottes aurait pu être ceux que le chasseur rencontrait et qu'il aurait eu des difficultés à abattre. Il y aurait pu y avoir une dimension propitiatoire dans cet art. Il est possible aussi que, tout simplement, les animaux soient des symboles. Symboles de quoi ? Difficile de vous le dire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de la grotte de Lascaux cet après-midi, et Franck Ferrand, vous nous faites redécouvrir ce chef-d'œuvre de l'art préhistorique.
De quand date-t-elle cette grotte de Lascaux? Pour être plus exact, de quand datent les décors extraordinaires qui ornent ses parois? C'est une des questions que je vais poser à mon invité dans un instant. Il semblerait, et c'est ce qui fait actuellement consensus dans la communauté des historiens, qu'il faille remonter quelques 350 siècles en arrière. On est à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, bien entendu. Alors c'est l'homme, c'est Homo sapiens sapiens, tel que nous le connaissons, mais qui est encore dans une phase de développement très éloignée du néolithique. Alors, on sait que l'homme de Néandertal, qui était juste avant Cro-Magnon, présentait déjà un certain nombre de critères artistiques d'une certaine manière. Il s'intéressait, il choisissait les roches, il mettait de côté les roches ternes ou grisâtres, et il préférait les jaspes colorés, les quartz transparents pour fabriquer ses outils. Il y a une volonté, il y a une recherche esthétique chez Néandertal, c'est vous dire si elle est encore plus grande et plus développée bien sûr chez Cro-Magnon. Les décors dont je vous parle sont parfois superposés, certains sont inachevés, ou en tout cas nous avons l'impression qu'ils sont inachevés. Pour les décrire, nous manquons de mots et de termes, puisque par définition nous sommes en présence d'un art dont nous ne connaissons ni les finalités, ni les techniques dans le détail. Et ça aussi, ça fait partie des questions que je voudrais poser tout à l'heure, bien sûr, à mon invité. Les peintures de Lascaux appartiennent à la période aurignacienne, périgordienne et magdalénienne, c'est-à-dire à ces moments où l'art préhistorique atteint son plus splendide épanouissement, dans cet accord de naturalisme, de majesté et de grandeur de style et de composition, de fraîcheur spontanée et de solennité religieuse, nous dit Marcel Brion. L'enthousiasme des auteurs ne s'est jamais démenti devant la découverte de Lascaux, et c'est vrai que devant la splendeur de tout cela, on est toujours un peu saisi et qu'on a tendance, évidemment, à utiliser les superlatifs. Au point de vue esthétique, ajoute Marcel Brion, et au point de vue technique, l'art de Lascaux constitue un des sommets de l'art paléolithique et nulle part peut-être il n'est aussi facile d'étudier la technique employée par les peintres de cet âge. Cette esthétique et cette technique représentent un progrès considérable sur celle des autres peintures datant du paléolithique supérieur. À Lascaux, nous avons l'impression de nous trouver devant l'aboutissement d'un art, et je dirais même d'un art qui commence à être aimé et voulu pour lui-même, qui cesse d'être uniquement au service de la magie ou de la religion. Alors, là, je suis désolé, et Dieu sait si j'aime beaucoup Marcel Brion, je le cite très régulièrement à ce micro, mais là, je ne suis pas sûr que nous puissions intégralement adhérer à cette analyse, car évidemment que les peintures, pour nous, ont un aspect très décoratif. Évidemment qu'elles ont l'air d'appartenir à une catégorie très ancestrale, très archaïque, d'art pour l'art. Mais il y a fort à parier qu'elles étaient en vérité à vocation magique. On n'a sûrement pas peint ces taureaux, ces rhinocéros, on n'a sûrement pas gravé ces bisons et ces chevaux. Et la frise des petits chevaux, par exemple, est une chose absolument extraordinaire. On n'a sûrement pas fait tout cela à seule fin décorative. Il y avait probablement de la religion, du rite, il y avait une incantation derrière tout cela. Et ce que nous voyons, ce sont les ombres, ce sont les évocations extrêmement précoces d'incantations qui se sont, elles, perdues dans la totale nuit des temps. La grotte, vous le savez, a été fermée, donc je vous l'ai dit, en 1963, n'y entre plus aujourd'hui que quelques spécialistes et les personnes en charge de son entretien. Elle a connu quelques vicissitudes, j'avais eu l'occasion il y a quelques années d'évoquer les problèmes rencontrés dans la grotte authentique, dans la grotte originale de Lascaux. Je vais également demander dans un instant à Monsieur Pic ce qu'il sait de l'état actuel de la grotte. D'une manière générale, ce qu'il faut saisir, c'est que cet endroit n'est qu'un tout petit morceau, on ne peut même plus parler là de partie émergée de l'iceberg, ce n'est qu'une partie infinitésimale de l'immense quantité d'œuvres préhistoriques qui doivent très probablement gisir sous nos pieds sans qu'on puisse le savoir, sans qu'on s'en doute parfois. Je sais qu'il y a notamment en Dordogne un certain nombre de personnes qui connaissent bien les lieux et qui imaginent la présence de grottes ornées de sculptures et de peintures rupestres. Toujours est-il que, à l'heure où je vous parle, il y a très peu de ces grottes qui ont été ramenées à la lumière du jour. Ce n'est pas le moindre intérêt de cette chapelle Sixtine de la préhistoire, nous dit Marcel Brion en conclusion, que d'offrir, à côté des grandes joies esthétiques que l'on tire de la contemplation de ces peintures, des énigmes séduisantes pour notre imagination et nourrissantes pour notre curiosité. Lascaux est un peu la chapelle Sixtine de la préhistoire, c'est ainsi que l'avait nommé l'abbé Breuil. Dans un instant, nous allons avoir le décryptage de tout ce qui s'y trouve en compagnie de Pascal Pic.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Jusqu'au 30 août prochain, Lascaux s'invite au Parc des Expositions de Paris où une partie de la grotte est reproduite à l'identique, une exposition à la porte de Versailles avec Europe 1. Vous recevez Franck Ferrand, le paléo-anthropologue au Collège de France Pascal Pic, auteur notamment du livre Le retour de Madame Néandertal, Comment être sapiens, paru aux éditions Odile Jacob.
Bonjour Pascal Pic.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, il y aurait énormément de choses à dire à propos de Lascaux. Peut-être avant de parler de la grotte elle-même et de toutes les questions qu'elle soulève, évoquons sa réplique, cette sorte de, comment pourrait-on dire, de
facsimilé.
De clone, de facsimilé.
Oui, on parle de clone aujourd'hui. Oui, on aurait dit ça avant. Oui, alors déjà Lascaux 2, que je connais bien sûr, il y a quand même de l'émotion, c'est une vraie réussite. Mais maintenant, il s'est avéré que devant le succès et l'ampleur, donc dans Lascaux 2, on ne voit qu'une partie, et donc il y avait une grande attente pour Lascaux 3. Alors, il y a pas mal de temps déjà, j'avais participé à la mise en place et la création du Pôle international de préhistoire, et il y a une volonté de la part des acteurs locaux de faire quelque chose de superbe, et ça avance très très bien. Et je me rappelle, j'avais visité, on avait fait d'ailleurs une réunion scientifique dans l'atelier d'ailleurs des artistes qui font le Lascaux 3. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Lascaux 2, il faut on rentre dans la grotte comme si on y était.
Voilà,
c'est déjà
voilà,
pas mal. Parce que là, c'est la grotte qui vient nous voir maintenant.
Ouais, c'est un petit peu moins magique quand même.
Ouais,
il faut le reconnaître.
Ouais, mais tout le monde ne peut pas aller dans le Périgord et puis c'est faire connaître quand même un trésor de l'humanité. Donc voilà, on perd un petit peu
elle
sur l'authenticité.
Elle
se promène déjà, donc c'est très très bien. Donc je suis très heureux effectivement.
Alors c'est toujours un peu étonnant d'avoir des facsimilés comme celui-là. On a bien compris. Je pense que le public évidemment l'accepte. On ne peut pas faire entrer tout le monde dans le site lui-même. Où en est-il le site? Quel est son état de santé, si je puis dire? Parce que, pour tout vous dire, on avait, il y a quelques années, fait une émission sur Lascaux, qui avait d'ailleurs fait un peu scandale. Europe 1, comme assez souvent, était en pointe sur la question. Et j'avais révélé des choses assez terribles sur l'état des peintures, sur tout ce qui se passait à l'intérieur de la grotte. Est-ce que tout ça s'est amélioré depuis, ou est-ce qu'on est toujours dans la même dégradation?
Les dernières nouvelles sont bonnes. Donc, on sort de la convalescence. Mais il est vrai qu'il y a eu des erreurs de commises. Ce sont des équilibres atmosphériques extrêmement fragiles. Alors, on comprend bien qu'à un moment ou à un autre, il faut changer les systèmes qui sont devenus un peu obsolètes. Mais en commettant des erreurs, parce que, attendez, moi, je suis un ancien physicien. La mécanique des fluides, il n'y a rien de plus compliqué. La biologie s'en mêle là-dedans. Donc, vous mettez tout ça en même temps. Alors, par exemple, comme je suis évolutionniste, et à un moment, on a résolu un problème avec certains champignons. Puis on s'est aperçu que ces champignons avaient besoin d'une bactérie. Donc on a mis un antibactérien, c'est-à-dire donc des antibiotiques. Mais après, il y a des champignons qui se nourrissaient des antibiotiques. Donc en fait, ce qu'on appelle chez les évolutionnistes la reine rouge, c'est-à-dire que vous mettez quelque chose, vous déséquilibrez, il y a d'autres aspects qui arrivent. Donc ça a été extrêmement compliqué de résoudre ça sur le plan technique. Alors heureusement, alors vous l'avez révélé, Europe 1, fort bien, mais il est vrai que il n'y avait pas de non-dit. Moi, je connais très bien mes amis là-bas, c'est des gens très très sérieux. Mais il est très clair que devant...
Disons qu'on ne s'attardait pas sur la question.
On voulait quand même un petit peu éviter la question. Et puis du coup, l'UNESCO s'est fâché. Il y a une commission qui a été nommée avec des organismes internationaux. Il est vrai que c'est un petit peu local. Je veux dire, même si là-bas, il y a des compétences extraordinaires, notamment beaucoup de gens qui sont mes amis. Mais il était nécessaire quand même de tirer l'alarme et d'installer ça à un niveau international, avec des compétences internationales. Et depuis, ben voilà, les choses vont beaucoup mieux. Et donc, notre trésor de l'humanité sera évidemment jamais plus ouvert au grand public, on le sait bien, mais à nouveau accessible aux chercheurs.
Alors avec la découverte d'autres grottes, je pense à la grotte Chauvet, à la grotte Cosquer, etc., se sont posées des questions qui sont d'ordre juridique sur les propriétés, etc. Est-ce qu'on a le même genre de problème à Lascaux?
Alors bah dès le départ, alors bon, Lascaux, ça tombait bien, c'était sur la propriété d'une très grande famille,
c'est ce que je disais tout à l'heure, oui.
Donc là, effectivement, ils avaient tout ce qu'il fallait pour gérer ce genre de choses. Mais avec la grotte de Vallon-Pont-d'Arc, c'est-à-dire de Chauvet, on sait bien que c'était très très compliqué et ça pose de réelles difficultés, à savoir lorsqu'on est propriétaire en surface, est-ce qu'on possède le sous-sol? Pour donner un aperçu complètement différent, vous savez qu'à la ville de New York, par exemple, on n'est pas à Lascaux, je vous l'accorde, mais vous savez qu'il y a un droit particulier, le prix du mètre carré étant tellement cher qu'il y a un droit vers le ciel. Donc toutes ces questions, effectivement, n'ont pas été abordées parce que la situation n'était pas là. Aujourd'hui, il y a une jurisprudence qui est bien installée, mais pendant longtemps, c'était très compliqué. Et puis, il y a autre chose. Cette vallée de la Vézère, qu'on appelle maintenant la vallée de l'Homme, eh bien, tellement de touristes du monde entier viennent là. Donc, il y a une manne touristique, il y a une économie qui est là. Donc, il a fallu... on sait qu'André Malraux a décidé de fermer Lascaux. Il était, c'était urgent. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a eu le Pôle international de préhistoire. C'était pour donner un peu plus de cohérence. Et puis, on comprend bien qu'effectivement, même les propriétaires, c'est leur terre, mais c'est quand même un patrimoine de l'humanité. Donc, tout ceci, maintenant, je crois, est assez bien rodé. Il y a encore des petits problèmes, mais je crois que ça va bien maintenant.
Alors, évidemment, la grande question qui se pose, et tous les spécialistes ne sont pas d'accord du reste, c'est celle de la datation. Ouais. Alors, la question se pose d'une façon très polémique à propos de la grotte Chauvet. Il semblerait qu'autour de la question de Lascaux, le consensus soit quand même plus facile à établir.
Eh bien non, Bon voilà, alors cette histoire est vraiment trop belle pour montrer comment tout ceci s'est fait. Lorsqu'on a découvert ces grands ornées, donc Altamira, ça avait été compliqué, oui. Mais c'est un chef-d'œuvre extraordinaire, il y en a d'autres. Et en plus, Henri Breuil a joué un rôle quand même très très important dans cette affaire-là. 1929, quand même, premier professeur de préhistoire au Collège de France.
Et puis c'était une sorte de, si j'ose dire, pour parler d'un abbé, c'était une sorte de pape, l'abbé Breuil. C'est-à-dire que quand il avait dit quelque chose, tout le monde acceptait, comme si c'était le infaillible, en fait.
Hein. Alors, Yves Coppens m'a raconté cette histoire, j'ai pas rencontré Henri Breuil, il me disait, Lascaux, mais bien sûr que c'est la préhistoire, la preuve, je ne l'ai pas fait. Vous voyez, ça donne le personnage, c'est un ton très Troisième République, vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire. Oui, alors, on est rentré dans cette grotte et tout de suite, on a regardé les parois, on a regardé le plafond, et puis on a piétiné tout cela. Et en gros, il va falloir attendre la fermeture de Lascaux et les années 70 pour que Madame Lemming-Empereur dise, il serait temps qu'on fasse de l'archéologie des grottes ornées. Donc, on a fait les prélèvements, Henri Breuil.
Mais ça veut dire que jusque dans les années 70, on s'est pas intéressé à l'archéologie.
Non,
on laissait les choses en l'état, simplement,
oui,
on admirait.
On était tellement, attendez, vous arrivez là, c'est tellement merveilleux.
Bah oui, c'est ça.
Vous mettez vos pieds, donc on va pas jeter la pierre à nos illustres prédécesseurs. Bien sûr, on peut regretter que ça soit fait ainsi. Alors, par exemple, ça donne des choses intéressantes. Pour les grottes ornées, on a regardé, est-ce que Lascaux, avec ses magnifiques cervidés, ses chevaux, évidemment, ses taureaux magnifiques...
On va parler de tout ça tout à l'heure, bien sûr.
Est-ce que effectivement, c'était pas un site propitiatoire pour la chasse? Or, en fait, après ces fouilles, on s'est aperçu qu'au contraire, non, ils mangeaient du renne. Donc, les mangeurs de renne ne dessinaient pas des rennes. Mais cependant, il y a un vrai problème aussi. Si, comme à la grotte de Vallon-Pont-d'Arc, donc dite Chauvet, ils utilisent du charbon de bois, ça c'est sympa parce qu'on peut le dater au carbone 14. Mais si on utilise des pigments minéraux, il y a peu de chances qu'on puisse dater. Donc on a encore ce problème-là. Donc pour beaucoup de personnes, vous allez encore du côté de Lascaux 2, etc., vous verrez 17 000 ans. Mais pour beaucoup de chercheurs, c'est du solutréen, à la fois sur le style et certaines données. Donc Lascaux est un peu plus ancien qu'on ne le dit.
Quand vous dites un peu plus, on pourrait dater à peu près...
autour de 20 000 ans, oui.
20 000 ans. Ouais, donc on est au paléolithique, bien entendu. Il faut expliquer un peu à quoi ressemblent les êtres humains qui fréquentent cette caverne.
Alors c'est vous et moi. Là, on en est complètement sûr parce que à cette époque-là, il n'y a plus qu'une seule espèce sur la Terre, c'est nous, les Homo sapiens. Et en précisant au passage que on a des grottes ornées partout dans le monde déjà à cette époque-là. Ce qu'on ne pensait pas d'ailleurs lorsqu'on a découvert Lascaux, le grand professeur André Leroy Gourand, qui était du Collège de France aussi, avait écrit un livre superbe, Préhistoire de l'art occidental. C'est magnifique. Mais justement, il avait bien dit, il y a certainement autre chose ailleurs. Mais lorsqu'on va découvrir la grotte de Vallon-Pont-d'Arc, donc dite Chauvet, qui fait l'objet d'un Chauvet 2, si l'expression est là maintenant, là, on peut dater. Et là, on a effectivement pris les précautions de regarder les sols, de les préserver. Et
on a étudié les choses d'une manière scientifique.
Mais
disons,
complètement. Hein, mais à l'époque, c'était scientifique. Mais simplement, on avait vu d'un côté, pas l'autre. D'ailleurs, Altamira, si je peux me permettre, c'est exactement l'inverse. En 1879, le marquis de Santuola, c'était là avec sa fille. C'est la préhistoire naît vraiment dans cette période-là. Et lui, fouillait le sol. Et c'est sa petite fille, en levant les yeux au plafond, a dit, papa, regarde. Et c'est là qu'il voit des boulets, ces bisons polychromes absolument magnifiques. Enfin, c'est sublime. Donc, vous voyez, il fut un temps, on regardait le sol, on regardait pas à côté. Et puis voilà, après, on est rentré comme ça, comme dans un musée.
Nous avons
donc,
fait
voilà, donc,
ici,
c'est
une émission avec Claude Douce à propos de Boucher de Perthes sur l'invention de la préhistoire.
Parce
qu'il faut dire à nos auditeurs qui n'auraient pas suivi cette émission à l'époque à quel point la notion même de préhistoire est relativement récente. On ne savait pas avant qu'il y avait eu d'aussi anciens ancêtres, en quelque sorte.
Eh bien, vous comme moi, nous avons été éduqués avec l'idée du miracle grec. Avant le miracle grec, bien sûr, bon voilà, il y avait quand même des choses, hein, quand même. Il y a des grands monothéismes, il y a des grandes villes, mais en gros, voilà, c'était l'histoire avec un grand H, avec l'écriture avec un grand E, et la ville avec un grand V. Voilà. Et donc, du coup, l'horizon était limité, et là, attendez, pour donner un petit peu une idée de l'échelle de temps, je rappelle qu'entre Vallon-Pont-d'Arc, donc Chauvet et Lascaux, il y a autant de temps qu'entre Lascaux et le centre Pompidou. Ouais, ça donne une idée.
Eh oui, donc, mais ça, c'est parce qu'on est en train de dater la grotte Chauvet. On l'a fait remonter à très, 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 très loin. Vous savez que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, hein. Mais bon, on va pas entrer aujourd'hui dans la polémique.
Non, mais sur les styles. Bon, je vais pas le résoudre, bien sûr, mais sur les styles. Donc, je crois que c'est à peu près cohérent. On a beaucoup de choses. Mais voyez, vous me demandez, mais comment étaient les hommes préhistoriques à l'époque de Lascaux? Là, je peux vous dire, c'est nous, Homo sapiens, qui vient d'Afrique. Mais ça, on le savait pas qu'on a découvert Lascaux à cette époque-là. Et par contre, à Vallon-Pont-d'Arc, c'est un peu plus intéressant, puisqu'on avait encore les hommes et les femmes de Néandertal dans le coin.
Oui, c'est ça, oui.
Mais oui, ils sont en Ardèche. Voilà. Oui,
ça paraît un peu inouï, cette histoire. Enfin bon. Ce qui était intéressant, c'est de savoir à quoi servaient toutes ces représentations inouïes. On ne peut pas imaginer que ce soit un art gratuit à l'époque.
Bah, d'ailleurs, l'art n'est jamais gratuit, ne serait-ce que l'émotion. C'était une des premières interprétations d'ailleurs de l'art pour l'art. Et puis très vite, on a été vers des interprétations plus ethnographiques. Hein, parce qu'au moment où naît la préhistoire, tout ça c'est juste après Darwin. Hein, après Darwin, enfin juste sur la fin de sa vie, va naître la préhistoire, donc l'étude des vestiges culturels d'avant l'histoire. Et c'est aussi l'ethnographie. Donc il a été dans cette vision du progrès à la fin du 19e. Enfin attendez, imaginez quand même la vision. La France quand même, c'est la belle époque. La France dit au monde ce qu'est le progrès. On a la Tour Eiffel, enfin quand même c'est extraordinaire. Et il y avait une exposition, il y avait la Tour Eiffel, et au pied de la Tour Eiffel, il y avait le premier Homo erectus découvert à Java. Vous imaginez la vision quand même hallucinante de ce raccourci de l'homme de Java avec les orteils écartés. Il n'était pas comme ça, bien sûr, mais néanmoins, et la France qui domine le monde. Donc du coup, on a inscrit cela en se disant, la France, la terre des civilisations, et donc du coup, on est allé chercher des analogies chez les peuples dits traditionnels ou même de premiers agriculteurs, et on a fait une échelle de progrès, et puis la France, mère des civilisations. En plus, je veux dire qu'on a quand même drôlement contribué à la préhistoire. Donc tout ça semblait cohérent, et ceci n'a été contesté qu'à partir des années 1960-70, et une fois de plus, pardon, mais il se trouve que le Collège de France est quand même pas mal dans cette histoire-là, avec des approches plus structuralistes, et c'est là qu'on a découvert que cet art, c'était pas qu'une limitation, ce n'était pas que du beau, même si le beau est là, si l'émotion est là, c'est quelque chose qui est structuré comme une écriture. Donc il y a un vrai récit qui raconte quelque chose sur le monde. Ce n'est pas que du beau pour le beau, même si c'est beau. Ce n'est pas que propitiatoire, c'est pas pour favoriser que la chasse, même s'il y a peut-être des éléments qui sont là. On a vraiment des récits sur le monde.
Eh bien, avec vous, dans un instant, nous allons la visiter, si vous le voulez, cette grotte de Lascaux. Que ce soit Lascaux 1, 2 ou 3, peu importe, c'est la même.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film A.O. Le Dernier Néandertal de Jacques Malaterre, une musique composée par Armand Amar. La grotte de Lascaux est au cœur de l'histoire. Nous la visitons avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité, le paléoanthropologue au Collège de France, Pascal Pic, auteur notamment du livre Le Retour de Madame Néandertal, comment être sapiens chez Odile Jacob.
Alors faisons, si vous le voulez bien, Pascal Pic, une sorte de visite virtuelle de la grotte de Lascaux. On entre. D'abord, comment se présente l'accès à la grotte de la vraie, je parle là.
Oui, oui. Ah ben moi, je suis assis devant la porte. Ouais, j'ai pas pu parce que c'était au moment où il fallait
pas raviver
y aller,
votre frustration.
Ah ben là, complètement. Ça rentre très rapidement. En fait, on rentre très très vite dans un diverticule et assez rapidement arrive la grande salle, donc dite des taureaux, avec toutes ces fresques extraordinaires. Ensuite, sur la gauche, il y a un petit diverticule qui part ou là aussi des choses. Mais enfin, ils ont été mettre quand même des peintures dans des endroits complètement hallucinants. Ensuite, on arrive à un petit carrefour.
Des endroits totalement inaccessibles, comme si à la limite on avait voulu protéger les représentations qui sont là de toute accessibilité ou de toute fréquentation trop grande. Hein, ça paraît étonnant quand même. Hein.
Mais écoutez, franchement, la question de la fréquentation et du retour de ces peuples de l'époque pour des raisons rituelles ou initiatiques ou qu'importe, tout ce qu'on pourrait imaginer, même la simple curiosité, ça reste très énigmatique parce qu'on a très peu de traces de pas, etc. Donc, et imaginez ces sanctuaires, ça complètement fermé, comme des cryptes, ceci est assez troublant. Alors, quand on traverse la salle de taureau, on va tout droit, et ça se rétrécit, et on arrive chez les félins. Et donc là, pourquoi les animaux les plus dangereux...
Il y a un côté matriciel, hein, quand même, on passe par une sorte de goulet, là.
Bah, c'est un utérus, quoi, soyons clairs, voilà, je suis un petit peu loin, mais quand même, il y a des collègues distingués dans tout ça qui disent quand même, c'est pénétrer la terre, il y a quand même de l'humidité. Alors, il y a eu des gens qui ont donné des idées qu'on ne peut pas vérifier, mais qui sont quand même très intéressantes. Comme Georges Bataille qui dit c'est la naissance de l'ère occidentale. Il dit c'est la naissance de l'érotisme. Georges Bataille, il dit cela quand même. Hein. Et puis, il y a également des gens comme Philippe Solers qui sont... Enfin, je veux dire, ça stimulait quand même les plus beaux esprits. Dans ça. Et pas forcément les esprits les plus standardisés. Hein. Georges Bataille, Philippe Solers, quand même...
On est sur les marges.
Et donc, quand on ressort la grande salle des taureaux, si on va sur la droite, là, il y a un truc, évidemment, qui a excité tout le monde, notamment les psychanalystes, c'est la fameuse scène du puits.
Alors, voilà.
On a un homme, on dit titifalique, donc c'est-à-dire en gros en érection, qui est renversé par un espèce de bison furieux, et à côté un piquet, comme une espèce de bâton avec une tête d'oiseau. Les oiseaux sont très rarement représentés. Et alors là, ça ouvre des tas d'interprétations hallucinantes. Il y a eu quelque chose d'assez intéressant récemment d'une collègue américaine qui a pris cette grande fresque des taureaux avec le chevaux et les cervidés, etc., et qui a eu l'idée de projeter, par reconstruction et imagerie, donc, de synthèse, les constellations d'étoiles de l'époque. Alors, évidemment, quand on pense à ça, ça fait penser à la Grande Ourse, etc.
Oui.
Et vous savez que, grâce à nos amis astrophysiciens, on peut reconstituer le ciel étoilé
que vous voyez.
Donc, tout ça, c'est passionnant. Je dis pas que c'est ça, mais je crois que...
Une dimension cosmique dans la présentation.
Au minimum, cosmologique. Cosmologique, donc, c'est un récit sur le commencement du monde, sur l'état du monde et notre rapport au monde. Il y a des choses qui sont troublantes, on n'a jamais de représentation de plantes, on n'a quasiment jamais de représentation d'animaux dans l'exercice de leur vie quotidienne, c'est-à-dire manger, se battre, il y a quelques cas, mais c'est très très rare.
Et dans cet art pariétal, quasiment pas de représentation humaine, ou très peu en tout cas. Hein.
Très peu. Alors, il y a beaucoup de représentations dites féminines, notamment des vues, symboliques, etc., mais des représentations masculines, alors ça aussi, on peut les interpréter comme cela, mais c'est plus douteux. Et puis, André Leroy Gourand, Annette Lamy-Grandpère n'avaient pas trouvé les mêmes associations, mais on trouve des associations. Il y a une grammaire de ce qui est exprimé sur ces parois qu'on ne peut pas décrypter, mais néanmoins il y a une structure narrative qui est là, c'est incontestable.
Exprimé en couleur, quasiment en relief, avec une incroyable justesse dans l'approche de l'animal, hein, comme s'il y avait une connaissance anatomique de l'animal, ça c'est étonnant. Tout ça projeté néanmoins d'une façon très aléatoire, avec des scènes et des sujets qui se superposent les uns les autres à des tailles différentes. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez à ça, parce que je sais que la communauté des préhistoriens a été très dubitative. Elle n'a peut-être pas aimé tout simplement qu'on vienne chasser sur ces terres. Mais nous avions reçu ici un monsieur qui s'appelle Bertrand David et qui avait travaillé avec Jean-Jacques Lefrère.
C'est ça.
Et il avait une intuition, lui. Alors, il est artiste de son métier, lui, il n'était pas du tout préhistorien. Mais il avait une intuition en voyant les petites amulettes de bison, notamment, il s'était rendu compte qu'on pouvait superposer exactement la silhouette de l'amulette et celle des représentations au mur. Or, disait-il, les animaux sont représentés tous par groupe, ils sont représentés de façon quasi identique. Et les contours sont d'une justesse folle, alors que le placement des pattes ou des yeux, par exemple, est très aléatoire et très maladroit. Donc, il disait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont projeté une silhouette, ils ont détouré la silhouette et ensuite, à l'intérieur, ils ont rempli ce détour. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette...
Alors, qu'ils aient pu faire ça, bien sûr. Imaginez, on peut plus le faire aujourd'hui, que vous puissiez découvrir ces magnifiques fresques, peintures, avec une lumière vacillante. Donc tout ça, ça bouge,
et voilà,
etc.
Bien sûr.
Alors maintenant, vous savez, les mains, c'est universel. On trouve les mains pâtes.
Ah, les mains, oui,
alors
bien
on a
sûr,
les
oui.
mains en négatif, mm-hmm. et les autres au pochoir, d'autres gravées, etc. Donc si on peut faire une main au pochoir,
pourquoi pas l'animal.
Oui, donc, oui, pourquoi pas projeter également avec cela. Donc évidemment, c'est un petit peu énervé tout le monde, ce que je comprends, mais très clairement, regardez le travail que font les artistes aujourd'hui avec les techniques 3D extrêmement puissantes pour simplement faire l'ASCO 3. Et donc voilà, on est quand même au-delà d'un animal qu'on projette comme
bien
ça.
Sûr, tout est-ce qu'il faut bien expliquer, ça c'est tout à fait fascinant, c'est que le support, si je puis dire, est d'une irrégularité folle. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout un support homogène.
Alors, l'ASCO a une particularité. D'abord, c'est pas une grotte de grande taille, donc ce qui fait sa valeur extrêmement... C'est un écrin tout de suite qui nous frappe, parce que tout de suite, on est au cœur. Et c'est une grotte qui est sèche, c'est quand même assez rare. Parce que dans d'autres grottes, par exemple, vous avez des dépôts humides avec un petit peu de... C'est pas de la boue, évidemment, mais et vous pouvez tracer avec le doigt. À l'ASCO, vraiment, ils ont déposé là-dessus. Mais par exemple, je pense à la grotte de Pechmer, qui est un petit peu plus ancienne. C'est entre l'ASCO et Chauvet. Pechmer, c'est une espèce d'immense cathédrale, alors que... Et vous arrivez, vous avez ce cheval qui est, vous savez, qui est avec des taches. Et là, franchement, ils n'ont pas projeté. Ils ont utilisé la roche. Donc, ce que me disait Norbert Ajoula, qui vient de nous quitter, malheureusement, Norbert Ajoula, il voyait bien qu'il y avait utilisation quand même des reliefs, des roches. C'était pas n'importe quoi. Et il y avait
comme
aussi...
Comme si on voulait faire parler la pierre, en quelque sorte.
Oui, la faire ressortir.
Oui,
parce
ça.
Que, franchement, ce que vous disiez tout à l'heure, si vous allez placer un animal dans un endroit particulier, comme l'espèce du terrus, comme je disais, j'ai poussé ce mot, mais j'aurais pu prendre autre chose, derrière, quand même, il y a une notion, comme vous l'avez très bien dit vous-même, de faire ressortir la terre, la faire s'exprimer à travers cela. Et puis, il y a quand même des processus d'anamorphose. Anamorphose, quand même, on y pense avec Dali.
C'est-à-dire de déformation.
De déformation,
hein,
voilà. Bien sortie de la terre. Et quand vous bougez, ça, l'anamorphose bouge. Voilà. Mais moi, je pense sur le trait
comme
précis.
Si l'animal vivait, en fait.
Voilà. Mais sur un trait précis, par exemple, je pense, tout le monde a en tête Lasco qui fait un trait, qui fait un taureau.
Ouais.
Lasco, Picasso, pardonnez-moi. Et derrière cela, tout de même, il y a un vrai style. Écoutez, franchement, même si je suis pas un grand spécialiste de l'art préhistorique, vous avez un cheval, vous savez que c'est Pechmer, vous savez que c'est Nio, vous savez que
donc,
c'est...
Et donc, comme
c'est,
des
pas,
écoles,
c'est pas malhabile.
C'est ça que
mais il y a des styles, c'est incontestable. Et vraiment, très rapidement, on les reconnaît, comme on reconnaît nos différents peintres d'aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'on puisse avoir, s'il y avait, franchement, cette technique qui est intéressante, d'ailleurs, je pense que l'idée nous a stimulé. Moi, j'aime bien les gens qui nous provoquent. Après, on devient sérieux, mais ils nous ont bien provoqué, et c'était quand même de bonne guerre. Mais derrière cela, tout de même, vous pouvez pas avoir un style si vous vous contentez de projeter. Et puis, il y a un autre problème. Où sont les figurines? Parce qu'on sait qu'ils en faisaient. Ils sculptaient, c'était de magnifiques graveurs. Alors, on a, par exemple, au Roc de Serre, si je ne me trompe. Non, c'est la Lande. Vous avez quand même une frise de chevaux. Une frise de chevaux qui est quand même
une sorte de troupeau sauvage.
En bas-relief.
Hein. Oui, oui, oui.
Là, c'est pas projeté,
oui,
franchement.
Oui, oui.
Donc, ils ont pu utiliser ces techniques, mais franchement.
Une des techniques.
Oui, il y en a plein.
Où allait-il chercher le pigment pour ces couleurs incroyables qui.
Vous savez, les hommes préhistoriques utilisent des pigments depuis au moins 100 000 ans. Alors l'Homo sapiens arrive dans notre coin, si je puis dire, donc en Europe occidentale, il y a seulement 40 000 ans. Donc il arrive déjà avec ses bagages d'artistes. Par exemple, il y a des peintures qui sont en Amérique du Sud, en Australie, avant Chauvet. Hein, vous voyez, donc tout ça remonte à très longtemps. Alors maintenant, vous avez une excellente connaissance de la géologie et c'est toute une discipline de l'archéologie. Sous-discipline qu'on appelle l'archéologie du paysage, où là, effectivement, mes collègues préhistoriens sont allés sur les traces, donc, des déplacements qui permettaient de les amener à chercher des gisements d'ocre, des gisements de manganèse.
Les techniques employées et les styles adoptés permettent d'établir, en quelque sorte, des généalogies, hein, des déplacements de populations, parce qu'on est en présence de populations qui ne sont pas forcément sédentaires et qui ne sont pas du tout urbaines, par définition. Hein.
Alors là aussi, ça bouscule toute une éducation classique qui disait qu'avant les inventions des villes, point d'histoire. Et alors, c'est complètement faux. Songez qu'à l'époque de Lascaux, en fait, des objets mobiliers, par définition, des coquillages, de l'ivoire, des gravures. Le Gravessien, c'est plus ancien que Lascaux, donc là, ça nous ramène à Chauvet. Ça circulait, franchement, de l'Atlantique au-delà de l'Oural. Donc, ce que l'on a découvert récemment, alors c'est une période beaucoup plus récente, mais pour donner une idée de ces peuples, ça s'appelle Göbekli Tepe. Donc, Göbekli Tepe, c'est en Anatolie, donc c'est en Turquie.
En Turquie aujourd'hui.
Ça date de 10 000 ans, et là, on s'est aperçu que les hommes qui sont à la limite quand même de la préhistoire et le néolithique, c'est-à-dire l'agriculture n'est pas inventée. Eh bien, ils ont édifié des lieux qui ont servi pendant des siècles, qui étaient des lieux de rencontre. Et on le sait par l'ethnographie, ces peuples se déplacent pour échanger des biens, pour échanger des...
Pour échanger des femmes, peut-être
des mais bien sûr, parce que Lévi-Strauss avait très bien vu, et on le sait très bien, c'est universel, on échange les femmes. Enfin, en tout cas, il y a des accords. Et donc, on peut imaginer que ces grands lieux, et il y a d'ailleurs des études plus précises, alors, non pas forcément sur l'art que l'on voit bien, mais sur des signes plus précis, symboliques, etc., qui montrent qu'il y avait des ethnies, et qu'il y avait certainement des lieux où ces cérémoniels, qui étaient l'occasion de se rencontrer, parce qu'évidemment, on est à l'intérieur des grottes. Mais sachez que certainement l'essentiel s'est effacé et c'était les abris sous roche. Pour vous donner encore une bonne image aujourd'hui, sans jouer sur les anachronismes, les cathédrales qu'on visite en France aujourd'hui nous émerveillent, mais sachez qu'elles étaient toutes peintes. Aujourd'hui, on n'a que la pierre. Voilà. Donc on a très peu de choses.
Oui. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on ait perdu la polychromie des cathédrales gothiques et même, alors encore plus romanes, et qu'on ait conservé la polychromie des grottes. Ça, c'est tout à fait étonnant. Autre chose étonnante, c'est qu'il y ait si peu de ces grottes, parce qu'on les compte sur les doigts des deux mains, les très belles grottes ornées, en fait, c'est quand même incroyable. Pourquoi n'en trouve-t-on pas davantage?
Bah, d'ailleurs, fallait les chercher. Regardez l'histoire de Vallon-Pont-d'Arc. Oui, voilà, oui. Alors, nos amis spéléologues, évidemment, font beaucoup de choses.
Ils rêvent d'en trouver d'autres.
Ils en rêvent d'en trouver d'autres. Mais la grotte Cosquer, regardez le niveau des mers, qui est beaucoup plus haut que pendant les périodes glaciaires. La grotte Cosquer, il a fallu plonger, y aller, et c'est important. Alors, petite anecdote, je sais pas si vous avez entendu parler de la grotte de Cussac, qui est une grotte absolument extraordinaire, qui a été découverte il y a même pas 10 ans. Et à Cussac, c'est aussi quelqu'un qui se baladait, qui a vu un trou. En plus, Cussac, c'est un village donc du côté de la vallée de la Vézère, où là était né, par exemple, Denis Péroni, un des très grands protagonistes avec Henri Boy, la préhistoire. Et ben voilà, donc, on a découvert un petit trou, comme l'histoire de Lascaux. Alors, d'emblée, ça a été fermé, et cette grotte est extraordinaire, puisqu'il y a des œuvres monumentales, des animaux plus grands que nature, gravés. Et il y a aussi des tombes avec de l'ocre. Donc là, ils ont quand même traîné les corps sur de manière pas facile et ça cérémonielle. Il y a également, donc cette grotte est complètement fermée, on commence seulement à l'étudier. Et pour une fois, peut-être qu'on va voir l'ensemble, à la fois l'anthropologie, l'archéologie qui vont ensemble. Et voilà, vous vous rendez compte, depuis, ça fait un siècle qu'on fait de la préhistoire, donc c'est pas facile à trouver. Et puis tant mieux, comme ça on en aura d'autres. Et puis il y aura certainement un Cussac 2. Et là, attendez, c'est extraordinaire, parce qu'il y a des œuvres que j'ai pu voir, que mes amis m'ont montré dans le Périgord, où là, vous avez des animaux complètement déformés. Franchement, pardonnez-moi l'expression, mais les gars, ils avaient fumé un joint, quoi. Et donc, il y a des œuvres complètement psychédéliques. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de mystères à découvrir. On connaît très peu de choses.
Merci infiniment, Pascal Pic. L'exposition Lascaux à Paris, Lascaux 3, est visible jusqu'au 30 août. C'est au Parc des Expositions, Porte de Versailles, dans le pavillon 8B. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le Retour de Madame Néandertal. Comment être sapiens, c'était chez Odile Jacob. Merci.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous répondez à la question d'Hubert via le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Hubert vous demande d'où vient l'expression « les enfants de la balle ».
Voilà une expression « enfant de la balle » qui a un peu perdu sa signification première. Quand on dit de quelqu'un que c'est un enfant de la balle, on aurait tendance aujourd'hui à penser qu'il s'agit d'un saltimbanque ou d'un enfant né dans une famille de jongleurs. En fait, c'est pas du tout. Quand on dit enfant de la balle, ça veut dire une personne qui exerce la même profession que ses parents. Alors pourquoi de la balle? Alors là, il y a plusieurs possibilités. Furetière, Antoine Furetière, l'auteur du célèbre dictionnaire à l'époque de Louis XIV, nous dit que la balle en question fait référence à la balle de jeu de paume. Et l'enfant de la balle, ce serait le fils d'un maître de jeu de paume qui, depuis son plus jeune âge, aurait été entraîné par son père. Ce qui fait que, évidemment, il serait devenu un joueur absolument imbattable et qu'il aurait été risqué d'affronter. D'autres explications existent. Enfant de la balle, ça ferait référence aux familles d'imprimeurs. La balle, ici, ce serait les rouleaux d'imprimerie qui pouvaient prendre la forme de balle à l'époque de la découverte de l'impression. Il s'agissait de petites pelotes de crin recouvertes de cuir où la balle permettait de répartir l'encre sur la feuille de papier. Cette tâche était souvent donnée aux enfants des imprimeurs, parce que c'était évidemment pas la partie la plus noble du métier. Être enfant de la balle, ça pourrait venir de là. Et puis, La balle, ça peut également désigner le paquet de marchandises. Autrefois, ça s'écrivait d'ailleurs balle avec un seul L, B-A-L-E. Et cette expression pourrait également désigner les membres des associations plus ou moins secrètes de marchands itinérants, les mercereaux, en référence à leur fameux ballot de marchandises. Un enfant de la balle, ça voudrait dire quelqu'un qui ferait partie de ces associations de marchands ambulants. Bref, quelle que soit la bonne explication, vous allez choisir celle qui vous plaît le mieux. D'une façon générale, sachez que lorsqu'on parle d'un enfant de la balle, on parle d'un rejeton qui exerce exactement le même métier que ses parents.